qui est paru aux éditions Les Arènes. Et comme je le disais à l'instant, dans ce roman, pour nourrir ce polar, vous vous êtes inspiré d'un scandale, c'est l'affaire Alstom. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'affaire Alstom ?
Alors, je me suis intéressé à l'affaire Alstom un peu sur le tard, en 2014, quand l'affaire a véritablement éclaté. Mais j'ai tout de suite, c'est une affaire énorme, c'est-à-dire, et en plus elle est emblématique, c'est-à-dire que Alstom c'est la dernière entreprise de toute une série. L'ancienne CGE a été totalement démantelée, il y a eu Alcatel, etc. Passons, c'est la suite de toute une série d'histoires. Et comme j'ai essayé de voir un peu comment ça avait démarré, je suis tombée tout de suite sur l'arrestation d'un cadre supérieur d'Alstom qui s'appelle Pierucci, qui est mis en taule par la justice américaine le 13 avril 2013. Personne n'en parle en France, personne ne cherche à le délivrer, ce malheureux, qui n'est pas accusé de corruption à titre individuel, mais simplement d'avoir fait une transaction en dollars, bon, transaction de corruption en dollars. Et le gouvernement français ne bouge pas, et l'entreprise ne bouge pas. Donc, l'auteur de roman se dit, là, il y a quelque chose.
Et c'est comme ça que débute Racket, avec l'arrestation d'un cadre de l'entreprise qui s'appelle Orstam, dans le roman, aux États-Unis. Et la suite, c'est dans le roman. On y revient dans un instant, Dominique Manotti, juste après votre portrait signé Olivier Boucreux.
Parmi les nombreux portraits de vous dénichés sur la toile, Dominique Manotti, celui-ci a particulièrement retenu notre attention. Vous y tirez joyeusement la langue et vos yeux pétillent. L'air de rien, cette photo démonte pas mal de clichés sur les auteurs de polar déjà, à l'esprit prétendument aussi noir et pessimiste que leurs livres. Sur les militants politiques aussi, ceux que vous avez été longtemps à gauche, a priori trop engagés pour se marrer. Et sur l'âge, enfin oui, on déconne encore à 75 ans.
Je viens d'une famille de la bourgeoisie aisée, une famille très, très ouverte, très libérale.
Votre vraie vie de Marie-Noël Thibault, votre nom à la ville et votre CV bien rempli vous ont mené tout droit, mais sur le tard, à l'écriture de romans noirs à forte connotation économique, politique et sociale. Quand on sait que vous êtes agrégé, spécialiste de l'histoire économique du 19e siècle, maître de conférences, que vous avez été prof de fac au poste 68art Centre expérimental de Vincennes et syndicaliste à la CFDT, on comprend mieux le cheminement et ce désir chevillé au mot de placer le lecteur au cœur de l'histoire.
Le polar, c'est l'histoire des marges, c'est l'histoire des dysfonctionnements sociaux et c'est ça qui, moi, me passionne.
Votre dernier livre n'échappe pas à la règle. Une fois de plus, c'est une rencontre avec un fait divers et les zones d'ombre dans l'information qui vous ont amené à redonner vie à vos deux personnages fétiches, le vieux sage d'Aquin et la policière Noria Ghozali. Fortement documenté mais librement inspiré du rachat d'Alstom par General Electric, Racket raconte une guerre économique perdue par la France face aux États-Unis et des hommes politiques fatalistes face au capitalisme. Dites-nous, Dominique Manotti, l'entreprise est-elle aujourd'hui le lieu des tragédies des temps modernes?
Alors, Dominique Manotti, l'entreprise aujourd'hui, c'est le lieu des tragédies des temps modernes, comme le disait à l'instant Olivier Boucreux?
Ah, ça peut, c'est pas le seul, mais oui, et surtout, si vous voulez, c'est un lieu où la frontière entre le légal et l'illégal se dissout totalement. Et ça, c'est passionnant, c'est le cœur du roman noir.
Ce qui est incroyable dans l'histoire d'Alstom, c'est que ce qui est bien rendu dans votre livre, c'est que c'est pas juste deux entreprises, une qui a racheté l'autre.
Non.
Côté américain, côté General Electric, on a l'impression qu'il y a tout un système. La police, la justice, le pouvoir et les grands groupes. Est-ce qu'ils sont de mèche, entre guillemets, ou est-ce que d'instinct, ils poursuivent le même but?
Ah non, je pense que dans le système américain, ils sont plus que de mèche.
C'est organisé.
Ah mais bien sûr. Il y a une espèce d'illusion sur le libéralisme américain. Il n'y a jamais eu de libéralisme américain. Jamais. D'abord, l'Amérique a toujours été protectionniste. Et ensuite, la croissance américaine repose à la fois sur le budget militaire et sur la coopération entre les entreprises et l'armée. Il faut avoir une idée de ce que ça représente au point de vue investissement. C'est énorme. Et d'autre part, je finis juste très vite, et d'autre part sur l'aide systématique organisée de la NSA et de la CIA.
On se souvient de l'amende de 10 milliards de dollars qui avait été infligée à BNP Paribas. Vous dites d'ailleurs que c'est un des faits qui a aussi qui vous a inspiré pour prendre connaissance de cette hyperpuissance américaine. Et elle prend aussi un autre tour avec Donald Trump aujourd'hui, c'est la multiplication de sanctions extrêmement sévères prises à l'endroit notamment de l'Iran au moment de la sortie de l'accord nucléaire, ou aujourd'hui de la Turquie. Comment, quel regard vous jetez sur cette hyperpuissance économique américaine aujourd'hui? Elle est inarrêtable?
Ah, elle est, pour l'instant, elle n'est pas contrée. L'Europe ne bouge pas. L'Europe est en situation d'acceptation, servitude volontaire. Bon. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces sanctions, on ne peut pas les mettre sur le dos de Donald Trump. Elles ont commencé avant. Avant. L'amende BNP Paribas, c'est avant. L'arrestation de Pierucci, c'est avant. Comment ?
Oui, c'est Obama.
Obama, absolument. On ne parle jamais dans l'affaire de la Turquie du très haut banquier turc qui est actuellement en prison aux États-Unis, qui a été arrêté de la même façon que Pierucci, exactement de la même façon, et pour les mêmes raisons, il a violé l'embargo avec l'Iran.
Alors,
il a été mis en prison il y a 14 mois.
Pour se protéger.
Je vous signale en douce que Pierucci est toujours en prison.
On l'a bien noté. En douce, on l'a noté. pour se protéger de ces agissements américains que vous évoquiez à l'instant, Dominique Menotti, la France songe à réformer ce qu'on appelle le renseignement économique.
C'est ça. Alors, quand on parle de renseignement, on pense d'abord au renseignement d'État, par exemple pour lutter contre le terrorisme. Mais il y a aussi le renseignement économique qu'on oublie. Et c'est donc ces renseignements économiques, ça sert à quoi? Ça sert à anticiper, vous l'avez dit, les menaces qui pèsent sur les entreprises françaises ou encore à appuyer leur expansion à l'étranger. En France, c'est un enjeu peu connu, presque tabou, et les spécialistes estiment que plusieurs déconvenues qui sont arrivées aux entreprises françaises auraient pu être évitées, comme le rachat d'Alstom par General Electric ou encore cette amende dont vous parliez de BNP, infligée à BNP Paribas par la justice américaine. Alors, Emmanuel Macron s'est engagé à réformer ce renseignement économique, mais c'est un petit peu compliqué. La réforme est prévue à la rentrée. Il a fallu 6 mois de tergiversation pour nommer un monsieur renseignement économique. Ça a fait l'objet d'une guerre de chapelle, d'influence entre Bercy et le ministère de l'Intérieur. Alors, Dominique Manotti, est-ce que vous pensez que dans ce domaine, on pourra un jour concurrencer les États-Unis?
Non.
Non,
surtout si vous voulez, le monsieur renseignement, ça va être le 10e ou le 15e. Je veux dire, chaque fois qu'on a un problème, on fait le comité de coordination du renseignement, qui est toujours aussi mal coordonné.
Sur le principe, vous qui êtes économiste, est-ce que vous pensez qu'on peut faire ce qu'on appelle le patriotisme économique, alors qu'avec la mondialisation, les entreprises sont multinationales, donc c'est un peu contradictoire, non?
Oui, alors je suis romancière. Donc la question du patriotisme économique est une question quand même très très compliquée à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Je ne suis pas une fanat du patriotisme économique, non. Simplement les relations économiques sont des relations extrêmement complexes dans lesquelles on ne peut pas avoir de naïveté. Mais qu'il en faille et qu'on ait des relations multiples dans un monde multiple, oui, absolument. Mais je suis romancière, hein. Je ne suis pas homme politique. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire dans le patriotisme économique.
Vous êtes romancière, mais puis vous êtes aussi historienne, hein. Vous êtes historienne de formation. Comment est-ce que, on se souvient parmi vos nombreux polars, on se souvient notamment de nos fantastiques années fric qui racontaient du trafic d'armes, c'était les années de Mitterrand. Comment est-ce qu'en 20 ou 30 ans, vous avez vu l'évolution comme ça des marges du pouvoir? Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir est passé peut-être du pouvoir politique au multinational? C'est là aujourd'hui que le pouvoir principal est?
Ça, je pense que c'est le vrai problème actuel, oui. Les États sont, à l'heure actuelle, en pleine dégénérescence. L'extraterritorialité de la loi américaine contribue énormément à la puissance américaine. On a une puissance de l'État américain, ça c'est clair. L'Europe n'existe pas. Les paradis fiscaux qui se sont énormément développés de façon récente, depuis la guerre de 40, c'est pas une réalité de toujours, les paradis fiscaux, changent complètement la donne. Et la très grande puissance des multinationales change complètement la donne.
Les hauts fonctionnaires français sont un peu désarmés face à cette situation.
Oui. Ils sont désarmés, je ne suis pas sûre du tout qu'ils... Alors, je vais être assez polémique.
Et assez brève, malheureusement.
Et assez brève, c'est qu'ils ont quand même un souci numéro un, c'est qui est de préparer leur pantouflage.
Et ces allers-retours, effectivement, entre le public et le public.
Je veux dire, là aussi, les règles du pantouflage ont totalement changé. Moi, je viens d'une famille de polytechniciens. Le pantouflage, il y a 50 ans, c'était pas ça. Hein.
Merci. Merci de...